Vous écoutez France Culture.
Quatrième et dernier temps de notre semaine sur l'histoire des colonisations comparées dans les années 20 et les années 30. Après avoir analysé le cas du Congo belge lundi, celui de Bouguera et l'Ouafi marathonien entre France et Algérie dans le documentaire de mardi, l'Italie dans son aventure coloniale éthiopienne, c'était hier. Nous concluons donc cette semaine avec le cas britannique, car si le 19e siècle a été un siècle britannique en matière de mondialisation, qu'en a-t-il été justement de ce moment particulier de l'entre-deux-guerres après la Première Guerre mondiale et jusqu'à la Seconde, notre première période de référence pour cette semaine de la Fabrique de l'Histoire. L'Empire britannique est alors à un sommet, mais est-il déjà fragilisé? C'est une des questions que nous poserons avec Yvan Gasteau, qui a préparé cette semaine avec nous, à nos invités, Armel Enders, elle est maître de conférence en histoire contemporaine à Paris-Sorbonne, au Centre de recherche d'histoire du 19e siècle. Elle vient de diriger avec Fabrice Ben-Simon un livre qui s'appelle « Le siècle britannique, variations sur une suprématie globale au 19e siècle » aux presses universitaires de Paris-Sorbonne. Pierre Singer-Avelou sera avec nous. Il est maître de conférence à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il prépare, après avoir travaillé sur beaucoup d'autres ouvrages, un livre collectif auquel va participer d'ailleurs Armel Enders, « Les empires coloniaux » qui paraîtra à la rentrée dans la collection Point Seuil, 19e, 20e siècle. Et Philippe Chassaigne sera avec nous. Il est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Bordeaux 3. Il est auteur d'une histoire de l'Angleterre chez Champ Flammarion, mais également de la Grande-Bretagne et le monde chez Armand Collin. Bonjour Armel Enders, vous êtes spécialiste du 19e siècle et vous êtes avec nous pour parler du début du 20e, mais évidemment vous vous intéressez à l'ensemble de la période donc contemporaine pour cette Grande-Bretagne. J'ai dit en ouverture de cette émission que ce 19e siècle en matière d'empire était le siècle britannique, l'empire britannique qui s'était répandu progressivement, d'ailleurs tardivement, on imagine que c'est beaucoup plus tôt dans notre vision française, tardivement, au cœur du 19e siècle, sur à peu près tous les continents de la planète, Armel Enders.
À l'apogée de l'Empire, à la période qui vous intéresse, ou à peu près, l'Empire britannique rassemble à peu près un quart des habitants de la planète, 500 millions de personnes, sans compter les régions sous influence informelle britannique.
Alors ça s'est passé comment, cette conquête? Je dis c'est une conquête tardive, parce que par exemple, pour ce qui est de l'Inde, qui nous intéressera à plusieurs moments de cette discussion, on imagine que l'Inde est britannique depuis fort longtemps. Or, il faut arriver au bon milieu du 19e siècle, et peut-être vraiment pour être à peu près tranquille d'une certaine façon quand on est britannique en Inde, parce qu'il y a des révoltes, il y a des tensions avec l'occupant britannique, et donc cette Inde, qui est pourtant le cœur battant de l'Empire britannique, eh bien, n'est pas totalement conquise à ce moment-là.
La présence britannique en Inde est ancienne.
Mais, c'est ça, oui, bien sûr.
Mais la consolidation, le passage sous hégémonie britannique ou paramountcy ne date que du début du 19e siècle. En plus, c'est par l'intermédiaire d'une compagnie particulière. Ce n'est pas la couronne britannique qui contrôle l'Inde, mais c'est l'East India Company qui progressivement perd son origine commerciale de compagnie à monopole pour se transformer en État territorial et militaire et fiscal. C'est surtout le... son pouvoir est violemment remis en cause en 1857 par une mutinerie qui dégénère en révolte.
La révolte des Sipahis.
Voilà. Et ensuite, la couronne britannique remplace avec un mode de construction particulier, à la fois une région administrée directement par la couronne et une ample partie de l'Inde qui reste aux mains des 562 souverains qui qui sont alliés de la Grande-Bretagne.
Alors, ça veut dire que, par exemple, l'impératrice des Indes n'est impératrice, tout compte fait, quand on parle de nos années 20 et nos années 30, n'est impératrice des Indes que depuis quoi, une petite cinquantaine d'années, puisque, en fait, c'est en 1876 que Disraeli a l'idée de lui faire prendre la couronne des Indes, donc relativement tardivement, et c'est Victoria, évidemment, qui prend cette couronne, qui la met sur sa tête, mais au bout du compte, ça veut dire que cette union, a priori, de l'Inde avec la couronne britannique est une union relativement tardive dans le 19e siècle, en tous les cas. Définitive.
Alors oui, oui et non. C'est-à-dire que symboliquement, effectivement, c'est tardif. Et c'est sans doute autant à usage interne en Grande-Bretagne pour revigorer la monarchie qui est contestée dans les années 1870 qu'à des fins justement périodiques. Ça a des effets aussi sur l'Inde, évidemment. Ça signifie le pacte, en quelque sorte, entre la souveraine et les souverains, les princes indiens. Hein, avec effectivement une originalité, même dans le cadre de l'Empire britannique, d'une construction politique très, très particulière. Mais effectivement, c'est relativement tardif.
Et Philippe Chassaigne, il faut bien mentionner comme point de départ à notre discussion, et puis ensuite on le laissera de côté d'une certaine façon, mais pas totalement, que dans ce 19e siècle, eh bien, il y a au moins deux catégories de colonies britanniques, puisqu'il y a ces dominions blancs, deux colonisations blanches, justement, qui peuvent être l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, qui ont déjà un statut un peu particulier, et ça nous permettra d'en discuter quand on arrivera à notre période des années 20 et des années 30 du 20e siècle. Et puis, il y a cette Inde, par exemple, et puis d'autres colonies, évidemment, qui vont venir s'ajouter, les colonies africaines, par exemple, qui n'ont pas exactement le même statut. C'est important que de le mentionner, peut-être en tout début de discussion, Philippe Chassaigne.
Oui, tout à fait. En fait, il y a trois types de colonies, pour résumer, pour schématiser. Il y a effectivement les White Settlements, les colonies de peuplement blanc, qui, après le Canada en 67, obtiennent progressivement très large autonomie politique. C'est l'Australie en 1901, la Nouvelle-Zélande en 1907, l'Union sud-africaine en 1910. Et puis on oublie toujours un autre dominion qui est Terre-Neuve, qui en fait n'entre dans le Canada qu'après la Seconde Guerre mondiale. Mm-hmm. Donc il y a les colonies de peuplement blanc avec une très large autonomie politique, mais un lien qui est le lien donc dynastique avec la Grande-Bretagne. Ensuite, il y a les colonies de la couronne, donc administrées directement par la couronne, donc par Londres, et l'Inde, sous domination britannique, fait partie des colonies de la couronne. Et puis, il y a les colonies à charte, qui sont donc, elles, des colonies administrées par une compagnie qui obtient une charte royale, qui lui donne donc le privilège commercial et le privilège d'administration. Donc, évidemment, c'est une question des colonies britanniques, mais c'est des colonies administrées par des personnes privées. Mmh. Un exemple de colonie à charte, c'est la Rhodésie, justement, hein, donc, qui est une colonie personnelle, pourrait-on dire, de Cecil Rhodes.
Yvan Gastaud.
Oui, Philippe Chassaigne évoque la diversité de la colonisation britannique. J'ai une question à poser peut-être à Pierre Singer-Velou. Est-ce qu'on peut considérer que l'apogée de l'empire colonial britannique est avant la Première Guerre mondiale et qu'à partir des années 20, on est déjà dans une période de déclin de cet empire ?
Alors, c'est une question intéressante. Je pense qu'elle révèle bien la vision traditionnelle que l'on a de l'histoire impériale, c'est-à-dire une forme de récit linéaire. Hein, aborder cette histoire comme on aborderait l'histoire d'un homme avec une naissance, un épanouissement, un développement,
une
dégénérescence. Je crois que les travaux les plus récents tentent à démontrer qu'au fond, il est difficile de parler d'apogée ou de déclin dans les années 1930 en général ou les années 1920, dans la mesure où, au fond, l'empire colonial britannique s'est toujours défini par une forme d'instabilité, de fragilité.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
C'est-à-dire que depuis la fin du 18e siècle, depuis la Révolution américaine, l'histoire de l'empire britannique est marquée par un grand nombre de crises politiques et militaires, avec, vous les avez mentionnés, la révolte des Cipayes en 1857, mais auparavant la révolte des Patriotes au Canada en 1837, la guerre des Boers Bourg de 1899 à 1902, le soulèvement en Irlande en 1916, etc. Et c'est au fond le mythe de la Pax Britannica au 19e ne s'applique en réalité qu'à l'Europe. Hein. À l'extérieur, outre-mer, eh bien, c'est la guerre qui est plutôt la règle, la guerre, l'instabilité, les tensions, les révoltes autochtones, les révoltes des populations blanches aussi, hein, qui sont très importantes, des colons, qui vont marquer ce 19e hein, autant que l'entre-deux-guerres.
C'est une manière de déconstruire hein, l'idée de, qu'on peut se faire de la colonisation où il y aurait un temps de la conquête et d'une conquête glorieuse où les choses seraient apaisées et puis un moment où il y aurait des révoltes. Finalement, on se rend compte que, et on l'a vu pour l'Italie, on l'a vu également pour la France et pour la Belgique. Donc on est un peu dans cette dimension.
Armel Enders, vous êtes d'accord ?
Oui, c'est absolument valable pour toutes les formes de domination impériale et coloniale. Enfin, il y a pratiquement jamais de moment de Pax, justement, de paix généralisée. C'est effectivement...
Et donc, pour ces années 20 et 30, puisqu'on évoquait dans la question d'Yvan Gasteau tout à l'heure cette question des années 20 et 30, on est après la Première Guerre mondiale, on a encore récupéré quelques petites parties qu'on a ajoutées à l'Empire. Donc, au bout du compte, cet Empire britannique est considérable, juste après la Première Guerre mondiale. Et donc, il est quoi ? Parcouru de ces tensions, mais est-ce qu'ils sont des tensions d'un mode nouveau, ou est-ce que ce sont les mêmes tensions qu'auparavant ? C'est-à-dire des conflits, des guerres, des révoltes, ou est-ce qu'il y a des tensions qui proviennent justement petit à petit d'une accoutumance des colonisés à l'Empire britannique et donc peut-être aussi d'usages différents de la relation de domination entre colonisés et colonisateurs.
Oui, alors les tensions sont d'un nouvel ordre. D'abord parce que l'Empire britannique va être marqué par la Première Guerre mondiale, puis la crise de 1929. La Grande-Bretagne va perdre ça progressivement à partir du début du tournant du siècle, du début du XXe siècle, sa place, sa situation, sa position hégémonique dans le domaine commercial, dans le domaine financier, avec la crise de la livre sterling. Donc il y a un affaiblissement de la Grande-Bretagne qui va
et même sa flotte va être contestée par la flotte américaine qui va devenir équivalente.
Et la flotte allemande, dès la fin du 19e siècle. Hein. Donc il y a une montée en puissance des États-Unis, une montée en puissance de l'Allemagne, vous l'avez dit Emmanuel, et puis la concurrence régionale cette fois du Japon hein, dans l'entre-deux-guerres qui devient de plus en plus puissant en Asie.
Philippe Chassaigne, sur tous ces points.
Ah bon, dire qu'il ne faut pas non plus passer d'un extrême à l'autre. Donc l'Empire britannique, ça n'a jamais été évidemment tout le temps une sorte de la Pax Britannica.
De chemin pavé de rose. Mais ça n'est pas que un chemin pavé d'épines, c'est ce que vous voulez dire.
C'est-à-dire que, bon, d'un autre côté, ça n'a quand même jamais été le foutoir permanent, si je puis dire. Il faut bien voir que cet empire qui couvre donc 33 millions de kilomètres carrés et comprend 450 millions d'habitants au moment de son apogée, donc après la Première Guerre mondiale, lorsque les Britanniques ont... se sont partagés avec les Français les colonies allemandes et ont établi leur mandat sur certaines des provinces non turques de l'Empire ottoman. Cet empire tenait grâce à une présence militaire qui était somme toute assez limitée, et avec des fonctionnaires qui étaient très peu nombreux. L'Indian Civil Service dans les années 30, c'est 1400 employés pour une population de 400... je n'ai plus les chiffres de population de l'Inde maintenant, enfin dans les 300 millions d'habitants, quelque chose comme ça.
Combien ? Mais redites les chiffres parce que c'est quand même impressionnant.
L'Indian Civil Service, c'est en 1937, c'est quelque chose comme 1390-1400 fonctionnaires.
Et ça veut dire que comment gouverne-t-on avec 1400 fonctionnaires ? On passe par des relais ? C'est un type de colonisation particulier ?
Alors, il y a effectivement des relais. Bon, Armel, tout à l'heure, évoquait les états princiers, les princely states, donc, qui couvrent à peu près un gros tiers de l'Inde britannique, où effectivement, ces princes sont des relais de l'autorité britannique. Mais bon, il faut bien voir que dans le cas de l'Inde, après l'écrasement de la révolte des Sipayes en 1957, en gros, il ne se passe pratiquement rien jusqu'à l'entre-deux-guerres avec l'agitation du Parti du Congrès. Et encore, bon, c'est une agitation qui est non violente, puisque Gandhi insiste beaucoup là-dessus. Donc voilà, il y a effectivement des guerres. Bon, la guerre des Bourgs, c'est une guerre pour inclure les républiques Bourgs dans l'Empire. Mais cet Empire, finalement, je ne dirais pas qu'il tient avec des bouts de ficelle, mais il tient avec des moyens militaires qui sont volontairement réduits, parce que les Britanniques, bon, ne tiennent pas à payer beaucoup d'impôts. Ils sont contents d'avoir l'Empire, mais ils ne veulent pas que l'Empire leur coûte cher. Donc il faut que l'Empire s'autofinance, se suffise à lui-même.
Armel Enders.
Oui, il y a quand même une grande crise en Inde dès 1905 quand il s'agit de partager la province du Bengale qui provoque des manifestations extrêmement importantes du terrorisme et sur laquelle la couronne britannique est obligée de revenir en 1911 pour des raisons d'apaisement. Et ensuite, je voudrais indiquer, pour rebondir quand même sur la... On parle des années 30 et de l'entre-deux-guerres. L'Inde, justement, c'est le foyer de la tension principale avec des mouvements extrêmement importants et notamment en 1919. Et j'ajoute un autre argument quand même qui joue un rôle très important, c'est quand même la révolution de 1917 et la peur en Asie de l'infiltration communiste qui touche aussi bien, enfin qui est une obsession des pouvoirs coloniaux aussi bien en Indochine française qu'en Inde britannique.
Alors Pierre Saint-Gervais,
pour rebondir sur ce que vient de dire Armel et ce que vient de dire également Philippe Chassaigne, je crois qu'il faut insister sur le décalage entre la mise en scène impériale, hein, ce fameux rouge sur la carte, the red on the map, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire cette carte, les cartes murales, les cartes représentant
l'équivalent du rose sur la carte pour la France.
Exactement. Philippe Chassaigne a évoqué ces 33 millions de kilomètres carrés qui constituent l'Empire, c'est presque 500 millions d'habitants, etc. En réalité, il y a un décalage entre ces chiffres, cette représentation iconographique, et puis la réalité effective de la domination coloniale britannique sur le terrain colonial. Il suffit de penser à l'Ouganda, fin 19e siècle, qui est représenté en rouge sur les cartes, alors qu'il n'y a concrètement que 25 administrateurs coloniaux britanniques pour gérer ce pays immense, avec plus de 2 millions d'habitants. Bon, cette sous-administration, ce sous-encadrement militaire...
Volontaire, visiblement.
Alors, volontaire et contraint, comme l'a dit Philippe Chassaigne, il s'agit de contraintes aussi budgétaires, financières. Les Britanniques ne peuvent pas, ne veulent pas...
Mettre trop d'argent.
Et c'est pourquoi ils choisissent, comme les Français au même moment, contrairement à ce qu'on a dit, les Français et les Britanniques n'ont pas véritablement développé des modèles impériaux totalement différents. Français et Britanniques, dès la fin du 19e siècle, développent le modèle du protectorat, c'est-à-dire qu'il faut avant tout s'appuyer sur les structures locales, sur les structures politiques indigènes.
Yvan Gastaud.
Oui, il y a un terme que l'on peut utiliser, il a déjà été utilisé, c'est la question des mandats, les mandats de la Société des Nations, peut-être Philippe Chassaigne. C'est une dimension nouvelle de la colonisation britannique après la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qui fait qu'après cette Première Guerre mondiale, la situation évolue ? On peut parler également de l'indépendance de l'Irlande en 1921, qui sont peut-être des éléments nouveaux dans le regard des Britanniques à l'Empire colonial.
Mais alors effectivement, en 1921, l'Irlande devient donc la partie sud de l'Irlande, puisque les six comtés du Nord restent membres du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Donc c'est la naissance de l'État libre d'Irlande et qui devient un dominion. Bon. Progressivement, le dominion de l'État libre d'Irlande va prendre ses distances vis-à-vis de la... Désolé, vis-à-vis de la couronne, jusqu'à proclamer unilatéralement son indépendance en 1936, après l'abdication d'Édouard VIII, et indépendance qui sera reconnue en 1949. Bon, donc il y a effectivement un détachement d'une partie qui est au cœur du système monde britannique. Bon. Et alors, pour ce qui est des mandats, c'est tout à fait intéressant d'en parler, bien sûr, parce que les deux puissances mandataires au Moyen-Orient, donc les mandats, c'est au Moyen-Orient, pas seulement, mais les mandats auxquels on pense en premier...
La France et la Grande-Bretagne.
Voilà, donc les deux puissances mandataires sont...
La France, la Palestine,
la Grande-Bretagne. Donc ce sont les provinces non turques de l'Empire ottoman. La France obtient un mandat sur le Liban. Bon, depuis 1858, 1860, protectrice des chrétiens du Liban. Donc la France obtient le mandat sur le Liban et sur la Syrie, et les Britanniques obtiennent mandat sur la Palestine, la Jordanie et l'Irak. Donc pour eux, c'est une façon de contrôler les deux grandes routes pour les Indes, celle qui passe par la Mésopotamie, donc l'Irak, et évidemment, avec la Palestine, de renforcer leur contrôle sur le canal de Suez. Quand on regarde le texte du mandat que donne la SDN à la Grande Bretagne pour la Palestine, on voit bien que la puissance mandataire doit en fait... la puissance mandataire doit œuvrer à la naissance d'institutions, donc aider à créer l'État et mener ces nouveaux États, les parrainer sur le chemin de la démocratie.
Avec cette idée qu'il y a le passage d'un territoire dominé par une puissance à une autre puissance qui le domine. Et c'est intéressant de voir ce transfert aussi marqué par la guerre.
En fait, le mandat, c'était en gros, la puissance mandataire devait être un parrain, donc je vous disais, aider à la constitution d'institutions et la naissance de ces nouveaux États. On voit en fait qu'en pratique, le mandat, c'était une forme déguisée de protectorat.
Pierre Saint-Gervais.
Oui, il faut noter qu'à l'occasion de cette politique des mandats, certaines white colonies, certaines colonies blanches vont développer elles-mêmes une politique impériale. C'est une forme de sous-impérialisme développée par l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, qui vont à leur tour avoir charge de mandat. Hein, par exemple, l'Afrique du Sud, l'Union sud-africaine, doit gérer le territoire du sud-ouest africain, la Nouvelle-Zélande et l'Australie.
Sud-ouest africain qui a été pris après la Première Guerre mondiale à l'Allemagne.
Exactement. Et donc à partir de ce moment-là, les Dominions vont commencer à mener une véritable politique étrangère. Le Canada va créer des légations, puis des ambassades à partir de 1926 à Washington, 1929 à Tokyo. Hein, donc il y a une autonomisation progressive des colonies blanches.
Armel Enders, qu'est-ce qui fait Empire ? Je sais que c'est une question hyper compliquée pour tout spécialiste de l'Empire britannique et que c'est une question débattue parce que ça n'est pas la même chose que de faire Empire en 1857, en 1895, en 1930. Mais qu'est-ce qui, au moment qui nous intéresse, c'est-à-dire à ce moment-là, fait Empire ? C'est-à-dire comment peut-on dire c'est un empire ? Quelles sont les caractéristiques de ce qu'est l'Empire britannique, justement, dans sa relation avec ses différentes colonies qui sont en dominion, non-dominion, mandat, etc., etc.
Alors, je crois qu'il y a une particularité britannique, d'ailleurs qui n'est pas seulement britannique, mais qui nous échappe un peu par nos réflexes français, c'est que c'est une monarchie. Et une monarchie et un royaume uni. Donc le souverain
couronne.
Anglais cumule les couronnes sur le. Enfin,
oui.
La pratique britannique, ça a été beaucoup aussi de semer d'autres monarchies et d'introduire au moins symboliquement une union par la personne du souverain et cette commune allégeance. Ce qui est commun à l'Empire britannique, c'est le fait que tout natif de l'Empire est sujet britannique et a une allégeance au souverain. Ce qui n'empêche pas, évidemment, des statuts extrêmement différents localement, mais en tout cas, c'est absolument fondamental.
Philippe Chassaigne, qu'est-ce qui fait Empire, justement, juste avant la Première Guerre mondiale ou juste après, puisque c'est la période qui nous intéresse ?
Ce qui fait, bon, outre ce qu'il vient de dire Armel Enders, ce qui fait Empire, ce sont aussi les liens économiques, même s'il ne faut pas non plus accorder plus d'importance qu'il n'en avait. Avant 1914, l'Empire n'est en aucun cas ni le premier client, ni le premier fournisseur de la Grande-Bretagne. Néanmoins, c'est effectivement, ce sont des liens économiques tout à fait réels. L'Empire fait partie, vous avez parlé tout à fait au début, en introduction de l'émission, de la mondialisation britannique au 19e siècle. Bon, l'Empire est une des manifestations de cette mondialisation économique. Bon, au cours de l'entre-deux-guerres, le rôle économique de l'Empire va augmenter. Pierre Saint-Garavelou l'a évoqué tout à l'heure. C'est vrai qu'après la dévaluation de la livre sterling en 1931, il y a les accords d'Ottawa en 1932 qui amènent la Grande-Bretagne à renoncer au libre-échange, mais qui fait de l'Empire et de quelques États qui passent des accords avec lui une zone de commerce préférentielle. C'est l'établissement de la préférence impériale. Et donc là, à partir de 1932 et après encore la Seconde Guerre mondiale, eh bien on voit la part de l'Empire dans le commerce extérieur britannique qui augmente considérablement jusqu'à devenir majoritaire dans les années 50.
Pierre Saint-Garavelou.
Oui, je crois que ça a été dit. L'Empire, c'est un concept abstrait. Donc, ce qui donne corps à l'Empire, ce sont les circulations dont on a parlé, circulation de capitaux, d'informations, de savoir-faire, etc. Mais surtout, la circulation des hommes.
Alors, c'est important.
Je crois que c'est à la fois ce qui fait Empire et la spécificité de l'Empire britannique.
C'est-à-dire est-ce qu'on peut se passer, quand on est membre de l'Empire britannique, sujet de l'Empire britannique, est-ce qu'on peut se passer, par exemple, de la centralité impériale du côté de Londres ? On peut partir de Calcutta, travailler, bon, on a l'exemple
parce
de Gandhi,
Gandhi oui.
On a l'exemple de Gandhi, partir de Calcutta, travailler en Afrique du Sud. Bon, il est passé quand même par Londres pour faire son diplôme d'avocat, évidemment, mais voilà.
Alors, de plus en plus de circulation se passe du détour par du passage par la capitale impériale. Enfin, ce passage reste quand même important, vous l'avez dit, pour les élites.
Légitimement, quoi.
Les élites autochtones, exactement. C'est un passage légitimement. C'est le cas de Gandhi qui va faire ses études en Grande-Bretagne, comme Jomo Kenyatta, originaire du Kenya, etc. Mais je crois que lorsque je parlais de ces circulations d'hommes, il faut insister sur le fait que l'Empire britannique est le seul empire, avec peut-être l'exception japonaise, à être peuplé en grande partie de populations d'origine européenne. Des millions d'hommes vont peupler ces colonies. Et surtout, à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire au début du XXe siècle, ces migrants finissent pour beaucoup, les trois trois quarts d'entre eux finissent par rentrer en métropole, ce qui accroît les interactions entre la métropole et les colonies, interactions culturelles, et notamment ce qui explique pourquoi la Grande-Bretagne est peut-être le seul pays au monde à cette époque à posséder une véritable culture impériale.
Yvan Gastaud.
Oui, culture impériale. Est-ce qu'on peut considérer que les élites indigènes sont amenées à puiser, à construire, je dirais, leur conscience indigène et également leur état d'esprit peut-être de résistance à la colonisation à partir de Londres? Ou est-ce que, comme le Gandhi l'a fait en Afrique du Sud, par exemple, on peut se passer par ce détour par la capitale?
Oui, alors c'est compliqué Pierre parce Singer, que Gandhi, en fait, va faire ses études donc à Londres, à University College, dans la capitale impériale, des études de droit. Je crois que c'est 1800, fin des années 1880, début des années 1890. C'est là quand même qu'il découvre les textes traditionnels de l'hindouisme, à Londres et non pas en Inde. Ensuite, vous l'avez dit, il fait son apprentissage politique en Afrique du Sud à partir de 1893.
C'est là qu'il invente la satyagraha en particulier, qu'il invente la résistance non violente qui va ensuite appliquer après la Première Guerre mondiale.
Oui, exactement. Et il faut préciser que de plus en plus d'intellectuels, de jeunes militants, à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire dans les années 1920-1930, vont se tourner vers d'autres réseaux impériaux. C'est-à-dire, certes, ils continuent à passer par la Grande-Bretagne. Il faut préciser qu'à l'époque, dans les années 1930, il y a des centaines d'étudiants à Londres, à Oxford, à Cambridge, qui viennent notamment du continent indien.
Est-ce que ça, c'est différent, par exemple, de l'Empire français
C'est une spécificité britannique. Ouais. Il y a environ 100 000 étudiants indiens dans les universités indiennes.
Parce que une des premières choses qu'ont fait les Britanniques, c'est de créer des universités déjà.
Une vingtaine d'universités
à
sont créées en Inde.
Bombay,
exactement,
etc.
Une vingtaine d'universités sont créées en Inde de 1857 à 1939. Et je disais que dans les années 30, eh bien, des intellectuels, des militants indiens comme Subhash Chandra Bose et des intellectuels birmans, la Birmanie étant aussi une colonie britannique, se tournent cette fois non pas vers la Grande-Bretagne, mais vers l'autre puissance impériale en plein développement, vers le Japon. Et donc vont séjourner soit à Taïwan, soit à Tokyo, pour être formés politiquement et parfois militairement.
Philippe Chassaigne, sur ce point, sur ces circulations impériales qui nous surprennent parfois, effectivement, de voir qu'on peut se passer du passage obligatoire, s'exonérer de ce passage obligatoire par la capitale impériale.
Bah, déjà, il faut voir que même si les temps de trajet entre les parties les plus extrêmes de l'Empire et la métropole tendent évidemment à diminuer tout au long du XIXe siècle, ça reste quand même relativement loin. Et puis, l'idée effectivement que l'Empire britannique est polycentrique, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Même sur le plan économique d'ailleurs, puisque je parlais d'économie tout à l'heure, l'Inde, l'Australie, le Canada développent des activités économiques propres, développent une politique commerciale qui leur est propre. Tout le commerce ne se fait pas avec la métropole. Loin de là, pour l'Inde, l'Australie, il y a le Japon, les États-Unis, pour le Canada aussi. Donc c'est circulation des hommes, circulation effectivement des marchandises, voilà, un premier point. Pour ce qui est puisqu'on parlait de Gandhi, du Parti du Congrès, il faut bien voir aussi que le Parti du Congrès qui voit le jour en 1885, si je me souviens bien, d'abord il est créé, donc l'Indian National Congress, il est créé par un Écossais, Alexander Hume, et pas seul, il y a aussi des notables indiens, mais enfin d'abord il est quand même créé par un Écossais, et que au départ, jusqu'à la Première Guerre mondiale, le Parti du Congrès, je reprends la belle expression de Claude Markowitz, il se considérait comme l'opposition de Sa Majesté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est donc un mouvement politique qui, dans les dirigeants, s'inscrivent dans une culture politique qui, elle, provient de Grande-Bretagne.
Armel Enders.
Oui, pour poursuivre dans cette voie sur l'autonomisation des politiques des colonies, des dominions, et qui restreint aussi l'Empire, s'il y a des restrictions à la circulation, dans la mesure où les dominions, l'Australie...
Progressivement, prennent une autonomie.
Prennent une autonomie, et finalement, ils minent aussi un peu l'Empire de l'intérieur, parce qu'ils introduisent des restrictions à l'entrée de sujets britanniques non blancs, pour dire les choses, sur leur territoire.
C'est justement dans ces années de l'entre-deux-guerres en particulier.
Même un peu plus tôt.
Yvan Gastaud.
On parlait hier avec la question italienne de l'intérêt de l'Italie pour l'Afrique. Est-ce qu'on peut parler de l'intérêt britannique pour l'Afrique et peut-être réfléchir à la notion de rythme en termes de colonisation, en sachant qu'il y a le fameux statut de Westminster de 1931 qui accorde une autonomie aux dominions, mais dans le même temps, il y a aussi cette colonisation de l'Afrique qui se produit au même moment, Armel Anders.
Alors en fait, c'est pas, ça se produit pas au même moment. Ce qui se passe, c'est que finalement, une partie de l'administration de l'Empire britannique échappe de plus en plus à Londres. Et ce qui reste, dans les années 30, l'Inde est en train de s'autonomiser, en plein changement de statut. Mmh. Et puis, de toute façon, ce qui dépend vraiment du Colonial Office se restreint aux colonies tropicales qui sont essentiellement en Afrique. Donc, ça devient important parce que c'est là où directement l'administration britannique peut montrer son savoir-faire en matière coloniale. Tout le reste est soit autonome, dominion ou self-governing colonies, ou l'Inde est en voie de transformation. Donc c'est un terrain qui devient important à ce moment-là comme vitrine de la colonisation britannique.
Pierre Saint-Garavelou, est-ce que c'est un lieu d'expérimentation cet empire, pour le centre de l'empire? C'est-à-dire qu'en travaillant sur l'Afrique du Sud il y a quelques années, on s'est aperçu évidemment que la guerre des bourgs, nous n'étions pas les seuls à l'avoir vu, puisqu'il y a eu des ouvrages là-dessus, a été un lieu d'expérimentation, de préparation, dit-on, du type de combat qu'on a pu mener pendant la Première Guerre mondiale en particulier, la question de l'invention du barbelé, dit-on à ce moment-là, et des camps, des premiers camps dans lesquels on parque des populations. Est-ce que c'est un lieu d'expérimentation cet empire? Parce que justement c'est loin, parce qu'on peut tenter de faire des choses assez loin de la couronne, assez loin de Londres, qui sont différentes de ce que voudrait peut-être aussi. Il y a des distorsions entre ce que veut le gouvernement britannique et puis ce qui se pratique sur le terrain. Ça doit être intéressant de travailler là-dessus.
Bien sûr, oui. Alors, ça a été beaucoup étudié, analyser le terrain colonial comme lieu d'expérimentation. Vous l'avez dit, c'est lié en grande partie à l'éloignement et à l'autonomie des administrateurs coloniaux sur le terrain. Il faut trouver des solutions jusqu'à ce rétrécissement de l'espace-temps dont parlait Philippe Chassaigne, donc qui s'opère dans la deuxième moitié du 19e siècle. Eh bien, les administrateurs doivent trouver des solutions, ne peuvent pas attendre les 6 mois de rigueur pour mettre en place les recommandations de la métropole et de Londres. Et donc, ils doivent inventer de nouvelles pratiques administratives, mettre en place de nouvelles normes juridiques, s'adapter surtout aux contraintes du terrain, aux contraintes locales. Donc oui, un lieu d'expérimentation.
Est-ce qu'il y a, comme on dit, il y a des circulations, par exemple, entre les sujets de l'Empire, donc d'expérimentation, les ouvriers qui vont travailler dans des mines à un endroit, qui reviennent dans leur pays, etc. Est-ce qu'il y a aussi des passages de savoir-faire entre administrateurs coloniaux qui se donnent des choses? Est-ce qu'on sait ça? Qui se donnent des trucs pour pouvoir mieux gérer leur colonie, par exemple?
Oui, alors pour l'Empire britannique, c'est bien connu, notamment pour le cas de Frédéric Legarde, qui est un grand administrateur et qui a théorisé sa pratique sur le terrain au tournant du 19e et du 20e siècle en Afrique britannique, au Nigeria, et qui a donc théorisé l'administration indirecte. Le gouvernement indirect et qui a produit un certain nombre de textes théoriques qui ont été utilisés ensuite dans l'ensemble de l'Empire britannique, y compris en Asie. Et c'est vrai que le parcours impérial de Lord Lugard a favorisé la propagation de ces pratiques, puisqu'il est allé, il a été devenu gouverneur de Hong Kong, etc. Donc ce sont des circulations très communes et qu'on retrouve d'ailleurs dans la circulation des pratiques culturelles. Il suffit de penser aux pratiques sportives, par exemple, qui sont là aussi, on touche à la spécificité de la Britishness, de l'identité britannique. Hein. Et ces pratiques culturelles vont circuler là aussi, non pas seulement à travers le déplacement des administrateurs, mais des enseignants, des missionnaires britanniques dans le monde entier. Donc le football, le rugby, le cricket, un peu partout dans le monde.
Armel Anders, oui. Et puis Philippe Chassaigne.
Il y a un point sur lequel c'est la même chose dans l'Empire français et dans l'Empire britannique, où l'Empire précède une pratique qui va ensuite s'appliquer en métropole, c'est sur la formation des administrateurs. Les premières écoles d'administrateurs sont faites en Grande-Bretagne au début du 19e siècle pour la Compagnie des Indes. Et je n'ai pas besoin de rappeler que l'École nationale de la France d'Outre-mer a été une expérience qui a précédé l'ENA.
Philippe Chassaigne, sur ces questions.
Oui, effectivement, la très grande diversité, variété des situations locales, la marge de manœuvre aussi, parce que c'est vrai que, bon, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a un encadrement qui est assez limité des colonies, et donc les administrateurs sur place sont même souvent, pratiquement, on pourrait dire que c'est des proconsuls, hein, ils ont de très larges pouvoirs, et ils en usent comme ils le peuvent. Bon, ils regardent évidemment ce qui se fait dans les colonies voisines. Bon, ça, c'est un élément qui est tout à fait réel. Pour ce qui est de la formation des administrateurs, bon, ben, après la suppression de la Compagnie des Indes Orientales en 1857, il y a la création donc de l'Indian Civil Service, la fonction publique indienne. J'évoquais tout à l'heure le nombre assez limité des fonctionnaires dans les années 30, mais bon, avant la Première Guerre mondiale, ils sont encore moins nombreux, c'est qu'il y en a moins de 1000, hein, pour administrer l'Empire des Indes. Mais cet Indian Civil Service, c'est vraiment le top, si je puis dire, de l'administration coloniale. C'est une élite qui est produite par la suite d'études extrêmement complète, un examen d'entrée qui est très dur. Et bon, on sait aussi que Keynes a été de 1906 à 1908, je crois, à travailler dans l'Indian Civil Service. Mais bon, donc c'est vraiment l'exemple même de ce qui pouvait se faire en termes d'administration coloniale.
L'économie est administrée.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas les Britanniques ont suivi là le modèle des Néerlandais. En fait, c'est pas une innovation. Mmh. C'est les Néerlandais qui ont été les premiers à mettre en place donc une école, une formation universitaire pour les administrateurs coloniaux.
Alors, il y a une question qui se pose et qui est en débat chez les historiens de l'Empire britannique, en Grande-Bretagne et ailleurs. C'est la question de la culture impériale, et en particulier, moi j'étais très impressionné avec Yvan quand on préparait cette émission de voir que la British Empire Exhibition de Wembley, c'était
27 millions de
visiteurs en 1924-1925, donc on se dit c'est beaucoup plus qu'à peu près à la même période, en 1931, l'exposition internationale coloniale de Paris. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que, et c'est un débat je crois récurrent chez les historiens de l'Empire britannique, est-ce que ça signifie que la question de l'Empire a pénétré très profondément dans les classes populaires, dans la profondeur de la Grande-Bretagne, l'existence donc d'un sentiment colonial? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Et à quelle période existe-t-il, Pierre Saint-Garavello?
Oui, alors là on touche à un grand débat qui agite aujourd'hui la communauté historienne anglophone et qui oppose d'un côté des historiens dits maximalistes, représentés par exemple Catherine Hall ou John Mackenzie, et de l'autre des historiens minimalistes avec Bernard Porter ou Andrew Thompson. Bon, alors les historiens maximalistes considèrent que l'Empire britannique, l'expansion coloniale, a eu un immense impact sur ce que les Britanniques ont pu penser, ressentir, faire au 19e, au 20e siècle, et même dès le 18e siècle. L'Empire aurait eu un immense impact sur, par exemple, les pratiques sociales, hein, comme le tea time, la cérémonie du thé, hein, qui rythme la journée, le quotidien des Britanniques dès la fin du 19e. Aurait aussi impacté des pratiques comme le scoutisme qui apparaît dans les colonies, évidemment, en Afrique australe, mais aussi des pratiques politiques comme la pratique de la pétition ou du boycott, etc. Bon. Et en face donc, de cette école historiographique, des historiens comme Bernard Porter, donc dit minimaliste, considèrent que l'Empire a eu assez peu d'impact sur la société métropolitaine, ou disons à l'exception de quelques groupes sociaux ou de moments particuliers comme les années 1820 ou justement le début des années 1930, il considère au fond que le discours impérial participe la plupart du temps d'autres types de discours plus fédérateurs, comme le libéralisme, le christianisme, le patriotisme, le populisme, et qu'au fond, l'impérialisme en Grande-Bretagne n'est jamais une fin, mais toujours un moyen.
Yvan Gasteau.
Poser une question aux trois intervenants, finalement, on trouve là quelque chose qui permet la comparaison. Donc on a parlé de l'exposition coloniale en France en 1931. On parle effectivement de cette exposition de 1924. Emmanuel l'a rappelé, de 27 millions de visiteurs, c'est effectivement impressionnant. 58 pays, entre guillemets, représentés. On peut noter aussi qu'il y a une autre exposition plus tardive, en 1938. Elle est un peu décentrée puisqu'elle est à Glasgow. Du mois de mai au mois de décembre 1938, 12 millions de visiteurs. Est-ce qu'on peut considérer que, en comparant la France et le Royaume-Uni, qu'il y a une sorte de convergence autour de cette nécessité de présenter l'Empire, de le représenter?
Armel Lenders et puis Philippe Chassaigne.
D'abord, alors, dans une continuité Il y a un décalage par rapport à notre époque dans les années 30. Il y a une obsession des autorités, que ce soit en France ou en Grande-Bretagne, pour donner une conscience impériale. Enfin, c'est un cliché de dire que les Français ne connaissent pas leur empire. Et de même, on a quand même un peu des choses comparables en Grande-Bretagne. Comme s'il fallait un effort de propagande supplémentaire pour instiller l'empire à peu près partout. Donc il y a une convergence, de toute façon il y a des histoires parallèles de ces empires, hein, et beaucoup de circulation entre les empires.
On se regarde entre la France et la
Grande grande partie des impérialismes est liée à ces rivalités. De toute façon, il y a une dynamique propre qui s'est auto-entretenue, donc c'est pas très... Je signale qu'à l'exposition internationale de 1931, la Grande-Bretagne n'est pas présente.
Philippe Chassaigne, justement, sur ces questions et sur ce sentiment impérial britannique.
Oui, effectivement, il y a une convergence évidente dans les années 20 et 30 des attitudes, des politiques aussi, pour donc rendre l'Empire encore plus populaire ou amener les Français ou les Britanniques à bien connaître leur Empire, au-delà des cartes donc, qui sont, par exemple, l'Empire en rouge pour la Grande-Bretagne ou en rose pour la France. Cette convergence, je dirais, bon, c'est une pirouette, mais pas totalement, je dirais que cette convergence, elle trouve son point d'aboutissement avec les affiches qui sont réalisées au début de la Seconde Guerre mondiale et qui reprennent le slogan de Paul Reynaud, nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts, et qui montre donc une carte du monde avec les empires français et britanniques représentés de la même couleur face donc à l'étendue beaucoup plus restreinte donc de l'Allemagne hitlérienne. Donc là, bon, c'est, pour moi, c'est vraiment ça l'aboutissement de cette convergence. Pour ce qui est de la controverse donc, entre les minimalistes et les maximalistes, que Pierre Saint-Gravelou a fort bien résumé, pour ma part, je pense que, bon, bah, évidemment, la vérité est quelque part entre les deux. Mais je pense surtout que, bon, je ne crois pas que le britannique moyen, si tant est que l'expression puisse avoir un sens, se réveiller en pensant à l'Empire tous les jours. En revanche, il y a effectivement des moments, bon, au moment de la guerre des bourgs, effectivement, lorsque la ville de Mafeking est assiégée et finalement donc, libérée, donc tout ça, le siège de Mafeking et sa libération, c'est quelque chose qui mobilise profondément l'opinion métropolitaine.
Mais on peut dire que ça mobilise aussi l'opinion française, puisque là, les Français ont pris fait écho pour l'opposition.
C'est dans l'autre sens. Mais on le voit avec la couverture de presse que cela suscite. Donc il y a des moments comme cela où effectivement l'Empire est une réalité quotidienne, concrète. Et ça. Puis après, il y a d'autres moments où je pense que les Britanniques sont beaucoup moins sensibles. Est-ce que tous les Britanniques qui buvaient du thé le soir, surtout quand il s'agit, lorsque le high tea, c'est le repas principal des milieux populaires britanniques, milieux ouvriers, donc le thé pris vers 18h, accompagné de pommes de terre, de bacon et de pain plus ou moins sec, est-ce qu'en buvant cela, ils se disent « Ah oui, le thé, grande contribution de l'Empire à notre niveau de vie ?» Bon, là, j'en doute un peu.
Est-ce que l'Indien qui joue au cricket se dit Pierre Saint-Gravelou, c'est une contribution de l'Empire à mon mode de vie. C'est-à-dire, au bout du compte, on peut aussi regarder de l'autre côté comment ces sports, Yvan Gastaud est aussi un historien du sport comme vous d'ailleurs, Pierre Saint-Gravelou, vous avez travaillé sur ces questions-là avec un livre qui s'appelait L'Empire des sports. Est-ce que ces sports, justement, sont aussi un mode de transpiration, de respiration entre la centralité de l'Empire et puis les colonies en l'occurrence?
Alors, c'est une très bonne question parce que dans le cas du cricket, comme dans le cas d'ailleurs du football et du rugby, ces sports se sont diffusés précisément parce qu'ils ont été totalement appropriés par les populations locales et en l'occurrence par les populations autochtones. Le cricket s'est diffusé en Inde à l'origine parce qu'il correspondait parfaitement à l'habitus de l'aristocratie indienne et non pas parce que, si vous voulez, le cricket était un sport impérial. Pourquoi est-ce qu'il correspondait à l'habitus de l'aristocratie indienne? Parce que c'est un sport qui ne nécessite pas de dépenses physiques, qui n'implique pas de contact physique entre les joueurs et c'est un sport éminemment intellectuel et stratégique. Hein, donc un sport dans lequel les Maharajas pouvaient se reconnaître.
On ne peut pas traduire ça du polo, par exemple.
Non, on ne peut pas traduire ça du polo. En revanche, le polo correspondrait à l'éthos équestre hein, de l'aristocratie musulmane et hindoue, hein, culture équestre très présente, hein, évidemment, au XIXe siècle. C'est pourquoi, lorsque le cricket se diffuse dans la société, dans les classes moyennes et classes populaires indiennes, à la fin du XIXe siècle, eh bien, les aristocrates indiens s'approprient le polo pour se distinguer du reste de la population.
Yvan Gaston.
Alors, le sport, bien entendu, on peut parler aussi peut-être d'œuvres et de productions culturelles. Est-ce qu'il y a des œuvres marquantes, je pense au cinéma notamment, qui marquent la période de l'entre-deux-guerres en matière de regard britannique sur l'Empire?
Je sais pas, Armel Enders, non, Armel Enders.
Là, à part des films de propagande, où il y a le cinéma hollywoodien qui s'est emparé aussi
les
trois lanciers du Bengale.
Et on voit bien que c'est le cinéma hollywoodien qui s'empare des thèmes coloniaux.
Mais il y a tout de même toute cette littérature coloniale qui peut-être trouve une sortie, la littérature de Rudyard Kipling, qui trouve peut-être des sorties dans d'autres types de représentations, que ce soit théâtrale ou que ce soit cinématographique à un moment ou à un autre aussi, peut-être.
Si je peux me permettre,
Philippe Chassagne.
Un film qui illustre parfaitement cela, c'est lorsque George V se rend en Inde c'est le seul d'ailleurs souverain, enfin roi empereur, à s'être rendu en Inde pour assister au Durbar, donc la cérémonie où les princes indiens viennent faire allégeance. Victoria n'y est pas allée, Édouard VII non plus, et George VI non plus, donc c'est le vice-roi qui avait reçu l'hommage des princes indiens au lieu et place du souverain. Donc lorsque George V se rend en Inde pour le Durbar, eh bien...
À quelle date c'est ?
C'est 1911, pardon. Mm-hmm. Il y a un film qui est tourné. Alors, je crois que le titre doit être en Inde avec notre grand roi, ou quelque chose comme ça. Bon, le titre m'échappe maintenant. Et ensuite, ce film est diffusé en Grande-Bretagne, donc c'est tout fait le début du cinéma, et il a un très grand succès.
Alors, cela dit, pour rebondir, il y a une naissance de cinématographie sous influence. L'Inde, notamment, il y a une production cinématographique pour l'Inde, les très lointains débuts de Bollywood. Mm-hmm. Et en Égypte aussi.
Là aussi, une récupération de cet art inventé en Europe, mais qui est immédiatement adapté justement aux sociétés en question.
Absolument. Et en Égypte aussi, où dès les années 20, vous avez les studios Misr, donc une cinématographie égyptienne en langue arabe qui diffuse assez largement qui est très dynamique dans l'entre-deux-guerres.
Alors tout de même, je sais bien, j'ai bien compris que j'avais posé une question un peu idiote au début en évoquant ces questions de fin de cycle, pourrait-on dire, dans ces années 20 ou dans ces années 30, puisque vous avez dit depuis le début qu'il y avait à la fois des moments de révolte et des moments d'apaisement à l'intérieur de cet empire britannique. Mais ces craquements qu'on imagine, parce qu'on connaît la fin aussi, c'est de la théologie, on connaît la fin de l'histoire d'une certaine façon, ces craquements qu'on imagine à partir, on a évoqué le parti du Congrès, on a évoqué les premières grèves, en particulier de Gandhi en Inde, ils sont très présents, moyennement présents, ils s'intensifient. Est-ce qu'il y a une densification, pourrait-on dire, à Merlinders dans ces années 20 et 30, justement, de la volonté d'autonomie, d'indépendance? Est-ce qu'on parle déjà de ces questions-là dans cette période-là, au moment justement autour de la crise de 1929, de la création du Commonwealth par l'Empire britannique qui sépare, techniquement pourrait-on dire, une partie de cet empire du reste de l'empire avec les dominions qui sont en part. Enfin, qu'est-ce qu'on peut en dire de tout cela, Armel Enders?
En Inde, le Congrès demande le Swaraj, alors qui peut se traduire par... En fait, Swaraj, ça serait self-government, qui en français peut se traduire ou par autonomie ou par indépendance. Enfin, il y a ce flou qui est quand même typique justement de l'Empire britannique et qui explique que les craquements soient un peu enveloppés. C'est le fait que les mots indépendance n'est jamais véritablement prononcé. Mais de fait. Alors, le Congrès demande le Swaraj en 1906. Ça s'intensifie évidemment dans les années. Finalement, la grande revendication pendant longtemps, c'est d'avoir le statut de dominion pour les Indiens. Bon. Et puis qui est refusé. Et avec des mouvements. Alors, une intensification en 1919 après un épisode qui s'appelle le massacre d'Amritsar, qui montre que les Anglais, 19. En fait, veulent maintenir l'état d'exception qui était et puis vous avez au début de 1930-1931 des tables rondes à Londres autour où la question de l'indépendance de l'Inde commence à se poser.
Philippe Chassagne sur ce point.
Oui, ben, dans les années 20 et 30, en fait, il y a deux points chauds dans l'Empire. C'est l'Inde, effectivement, et puis c'est la Palestine. Parce que les Britanniques se sont engagés en 1917 à œuvrer en faveur de l'instauration donc, d'un foyer national juif, un foyer national pour le peuple juif en Palestine. C'est la fameuse, la célèbre déclaration Balfour de 2 novembre, je crois, 1917. Et donc, une des conditions mises par la SDN à l'octroi du mandat britannique sur la Palestine, c'est justement d'œuvrer à la réalisation concrète de cet engagement. Mm-hmm. Bon, du coup, après la première guerre mondiale, il y a dans les années 20 et 30 trois vagues d'immigration juive en Palestine, et cela entraîne une détérioration des rapports entre les deux communautés. Or, les Britanniques, eux, ont évidemment tout intérêt à ce que les populations arabes soient calmes, puisque la stabilité des populations arabes du Moyen-Orient, c'est une des clés d'un contrôle pas trop difficile à réaliser sur les canaux de Suez. Donc les Britanniques sont un peu pris à leur propre pièce, à qui ils sont à la fois la nécessité de tenir la promesse de 1917, mais en même temps de ne pas aliéner les populations arabes. Et en fait, à la fin des années 30, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, en fait, c'est un échec complet, parce que la Palestine est dans un état de guerre civile larvée entre les deux communautés, et les Britanniques sont dans ils s'interposent, mais ils sont dans l'incapacité de maintenir le calme. Et pendant la guerre, surtout après la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques vont être les cibles du terrorisme à la fois arabe et de l'Irgun, l'armée secrète juive.
Yvan Gasto.
Oui, Pierre Singarello, on peut être frappé par le fait qu'en France, on a tendance à faire cette césure entre colonisation et décolonisation avec la date de 1962. Il semble que pour l'Empire britannique, il n'y ait pas vraiment de date. Bon, il y a 1947, mais est-ce que c'est vraiment une date aussi importante que pour la France, par exemple ?
Oui, alors bien sûr, d'autant plus que, comme on l'a dit tout à l'heure, en réalité, la décolonisation, elle commence dès la fin du XVIIIe siècle, depuis la Révolution américaine. Ensuite, Armel Anders pourrait vous parler évidemment des indépendances, etc., latino-américaines. Mais il faut quand même insister sur la radicalisation des années 1920-1930. Hein. L'année 1930-31 est une année importante. On a parlé du Proche-Orient. On peut revenir en deux mots sur la situation en Inde. Et un événement quand même très symbolique en 1930 avec la marche du sel, où là, on demande explicitement, à travers Gandhi et le Parti du Congrès, l'indépendance. Et on obtient à ce moment-là les premières victoires politiques. Hein. Gandhi obtient une victoire politique avec cette marche sur le sel où il va collecter, souvenez-vous, il va collecter du sel au bord de la mer. Et il enjoint tous ses concitoyens à violer le monopole de l'État colonial sur le sel. Hein, l'État colonial impose un impôt à tous les Indiens, y compris aux plus pauvres. Et devant ce phénomène de masse, c'est-à-dire que des centaines de milliers d'Indiens commencent à collecter eux-mêmes le sel, eh bien, l'administration coloniale est obligée de céder et d'octroyer le droit de collecter le sel aux Indiens.
Un dernier mot, Armel Anders.
Oui, petite proposition pour une date comme ça qui signifierait la décolonisation britannique. C'est le début des années 60, je crois 62, quand la Grande-Bretagne introduit des restrictions à l'installation sur son territoire de migrants venus de l'Empire.
Mais ça correspond à peu près à ce qu'on peut connaître, effectivement, du côté de l'Empire français. Et donc, moi, j'ai découvert en vous lisant, effectivement, que ces idées reçues qu'on a souvent sur la différence entre l'Empire français et l'Empire britannique, eh bien, sont moins importantes, en particulier dans ces années 20 et 30, qu'on ne peut le penser. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette dernière émission de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux colonisations comparées dans les années 1920 et 1930. Je recommande à nos auditeurs le livre de Philippe Chassaigne, bien entendu, sur l'histoire de l'Angleterre, c'est chez Champ Flammarion, mais également La Grande-Bretagne et le Monde, c'est chez Armand Collin. Pour vous, Armel Anders, vous avez coordonné avec Fabrice Ben-Simon Le siècle britannique, variation sur une suprématie globale, ça vient de sortir, c'est au 19e siècle, ça vient de sortir aux presses universitaires de Paris-Sorbonne. Et puis, pour votre part, eh bien, on peut citer Monde, donc une revue nouvelle, donc chez Armand Collin, Monde avec des parenthèses et un S, histoire, espace, relation, avec un numéro 2 qui vient de paraître, qui s'appelle Empire au pluriel, Pierre Singarvelou. On peut citer l'Atlas des empires coloniaux qui vient de sortir, l'Empire des sports, c'était il y a quelques temps, et on attend avec impatience, et Armel Anders y participera, les empires coloniaux 19e, 20e siècle, chez Poinceuil. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vanna Bolivier et Aurélie Marsay. Alexandre Dang était à la technique et Renaud Dalmar à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site franceculture.fr. Sur ce site, vous pouvez évidemment aussi réserver vos places pour le forum L'année vue par l'histoire. C'est samedi prochain au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, vous l'avez entendu ce matin dans les matins de France Culture. Et on aura le plaisir de vous y retrouver, Armel Enders, sur la question de qui écrira l'histoire de la mondialisation. Vous interviendrez dans la deuxième table ronde, donc animée par Anaïs Quin, table ronde dans laquelle on discutera justement de ces autres histoires du monde qui ne sont pas forcément des histoires européennes.